VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 mars 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, au moins 5 personnes ont été kidnappées et 80 autres dépouillées en zone anglophone.
Centrafrique, Bangui et les 14 groupes armés du pays se sont mis d'accord à Addis Abeba sur un gouvernement inclusif.
En République démocratique du Congo, les défenseurs des droits de l'homme entendent poursuivre en justice Kalev Moutonde, l'ex-patron du renseignement, pour entre autres détention arbitraire et torture.
En Côte d'Ivoire, constitution hier d'un nouveau mouvement dit Atoun, proche du vice-président Daniel Kablan Duncan.
Ici à Washington, le président Donald Trump a dit que les tarifs douaniers imposés à la Chine pourraient rester en place pour une période conséquente.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, au moins 5 personnes ont été enlevées hier dans 2 kidnappings survenus dans les 2 régions anglophones du pays où 80 autres personnes ont été dépouillées le même jour par des séparatistes, a appris l'AFP de plusieurs sources. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ces 80 personnes qui voyageaient en bus ont été attaquées par des séparatistes sur la route entre Boya et Kumba dans le sud-ouest. Ces derniers prennent fréquemment des otages sur cet axe en échange de rançons réclamées à leurs familles par transfert mobile. À Boya même, au moins 4 joueurs de l'équipe de football de l'université de la capitale du sud-ouest ont été kidnappés hier matin en pleine séance d'entraînement. Et à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, un ex-secrétaire d'État, Emmanuel Ngafesson, a été enlevé en plein centre-ville mercredi matin, a affirmé à l'AFP une autorité locale, précisant qu'il n'avait pas été libéré depuis. La veille, l'entraîneur de Sport Academy de Bamenda, Emmanuel Ndoumbé Bosso, un ancien lion indomptable, a lui été libéré après plusieurs heures de captivité, nous signale notre correspondant Emmanuel Jeunentap.
Les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix en Centrafrique, négocié début février à Khartoum, au Soudan, se sont mis d'accord à Addis Abeba sur un gouvernement inclusif. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et principal facilitateur de ces pourparlers, Smaël Chergui, n'a pas cassé hier sa satisfaction.
Je voudrais également adresser mes félicitations et tous mes vœux au peuple centrafricain qui demeure la source de l'autorité et aussi la source des attentes auxquelles doit s'atteler ce gouvernement. Donc nous souhaitons bon courage au gouvernement et nous resterons aux côtés de la Centrafrique. Nations Unies, Union africaine, CEAC, et nous nous mettrons en conjuguant nos efforts avec le gouvernement pour mettre en œuvre plein d'heures d'effectifs dans le corps. Donc nous avons besoin de toutes les centrafricaines dans le monde.
C'était Smaël Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine.
En République démocratique du Congo, des défenseurs des droits de l'homme ont annoncé hier leur intention de poursuivre en justice l'ex-patron du renseignement, entre autres pour détention arbitraire et torture. Kalev Moutonde a été relevé de ses fonctions mardi par le nouveau président Félix Tshisekedi. « Maintenant qu'il n'est plus là, il doit être poursuivi par la justice », a déclaré à l'AFP Jean-Claude Katende, président de l'ASADO. Les ONG congolaises accusent Kalev Moutonde d'avoir fait de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, une police politique au service du régime de l'ancien président Joseph Kabila. Patron tout-puissant de l'ANR depuis 2011, Kalev Moutonde fait partie des 14 responsables congolais sous sanction de l'Union européenne pour atteinte aux droits de l'homme et entrave à la démocratie.
En Côte d'Ivoire, poursuite des grandes manœuvres politiques en vue de la présidentielle de 2020, un nouveau mouvement dit Atoun, proche du vice-président Daniel Kablan Duncan, a été constitué mercredi pour, dit-on, éviter une seconde crise post-électorale, Bagassi Koura.
M. Duncan est officiellement membre du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de l'ex-président Harry Konan Bédié, mais il est surtout très proche du président ivoirien Alassane Ouattara, qu'il a nommé vice-président à la création de ce poste en 2017 et dont il avait été le premier ministre de 2012 à 2017. Anciens alliés, Ouattara et Bédié sont à couteau tiré depuis que ce dernier a claqué la porte de l'ancienne coalition présidentielle, refusant de fondre le PDCI dans le rassemblement des Ouattaristes pour la démocratie et la paix, qui s'est transformé en parti en janvier. Le mouvement Atou, mot que deux personnes prononcent lors d'une accolade dans la tradition Akan, va soutenir M. Duncan qui, je cite, « incarne la stabilité, le dialogue et la cohésion », fin de citation, une démarche destinée à, je cite, « éviter une seconde crise post-électorale en Côte d'Ivoire ». Atou va lancer très prochainement une caravane de la réconciliation qui va parcourir le pays afin de recueillir des signatures avec des messages pour la paix.
Au Nigeria, 4 agriculteurs ont été tués dans une attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans l'état du Borno, dans le nord-est, ont indiqué mercredi des témoins. Cette nouvelle attaque est survenue mardi, au lendemain d'un raid du groupe dans l'état voisin d'Adamawa, qui avait fait 3 morts. Boko Haram a souvent attaqué des agriculteurs, des bûcherons et des éleveurs, les accusant d'être des indicateurs de l'armée et des milices qui la secondent.
Les secours s'organisent difficilement pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés du cyclone meurtrier qui a balayé l'Afrique australe. Des hélicoptères pour secourir les rescapés bloqués dans des arbres et sur des toits, distribution de nourriture et construction de camps. L'ONU a annoncé hier le lancement d'un appel de fonds massif aux pays membres pour financer les opérations de secours 5 jours après que le cyclone Idai a ravagé 3 pays de la région, le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. Le bilan final pourrait dépasser le millier de morts, selon le président mozambicain Philippe Nyusi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a dit hier que les tarifs douaniers imposés à la Chine vont vraisemblablement rester en place pendant un certain temps encore, même en cas de conclusion d'un accord commercial avec Pékin. Une déclaration qui semble indiquer une volonté de s'assurer que si un accord est conclu avec la Chine, celle-ci le respectera. M. Trump a estimé que les négociations se passaient bien, notant que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au commerce Robert Lighthizer se rendront en Chine dans les prochains jours pour les poursuivre.
D'autre part, le président Trump a vanté, carte à l'appui, les progrès dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique depuis son arrivée au pouvoir. Il a affirmé une nouvelle fois que la chute de leur califat autoproclamé était imminente. Lors d'un échange avec les journalistes à la Maison-Blanche, M. Trump a déroulé une feuille représentant la Syrie et expliqué « Tout ce qui est rouge, c'était le groupe État islamique le soir de l'élection en 2016. En bas, c'est la même carte, il n'y a pas de rouge. En fait, il y a un tout petit point et, après dit M. Trump hier, il aura disparu ce soir. »
En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern a annoncé aujourd'hui l'interdiction de la vente des fusils d'assaut et des armes semi-automatiques en réponse à la double tuerie des mosquées. 50 fidèles ont été abattus il y a près d'une semaine par le tenant australien de la suprématie blanche dans 2 mosquées de Christchurch, un massacre qu'il a filmé et diffusé en direct sur Facebook.
Pour revenir aux États-Unis, le procès sur le produit controversé Roundup de Monsanto est toujours au centre des débats à San Francisco. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La question n'est pas de savoir si vous aimez Monsanto ou pas, a soutenu l'avocat du groupe hier devant le jury d'un tribunal chargé de déterminer si le géant agrochimique a volontairement caché la dangerosité du désherbant Roundup. Mardi, ce même jury a estimé que le célèbre et controversé produit a contribué au cancer d'un septuagénaire qui a vaporisé du Roundup sur sa propriété pendant plus de 25 ans. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'un jury juge ce produit cancérigène. Cette décision, qui a fait plonger en bourse l'action Bayer, nouveau propriétaire de Monsanto, a ouvert la deuxième phase de ce procès. Désormais, les jurés doivent répondre à 2 questions. Est-ce que Monsanto est responsable de l'affection d'Edwin Herdman? Et si oui, quels sont les dommages et intérêts intérêts qu'il devrait payer. Bayer fait face à quelque 11 200 procédures similaires rien qu'aux États-Unis. Lors d'un premier procès en août, il a été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier malade d'un cancer en phase terminale, une somme ensuite réduite par un juge à 78,5 millions de dollars. Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, a classé en 2015 le glyphosate comme cancérigène probable, mais pas les agences européennes EFSA, chargées de la sécurité des aliments, et ECHA, qui s'occupe du contrôle des produits chimiques.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute éco, Nani Talani.
En 2018, le Bénin a exporté 1969 tonnes de noix de cajou en Occident sur une production évaluée à plus de 120 000 tonnes selon le site Nkalo. Le gouvernement béninois envisage de la porter à 300 000 tonnes à l'horizon 2021 en vue de rehausser l'exportation mais aussi de booster la transformation locale. Actuellement en Afrique, le Bénin passe devant le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, Madagascar, la Tanzanie et la Guinée. Sur le plan international, il passe devant la Thaïlande et la Chine. Au Cameroun, malgré la crise anglophone, Fitch Solutions anticipe une production cacaoyère de 245 000 tonnes pour la campagne 2018-2019 qui s'achève en mi-juillet. Investir au Cameroun écrit que cette projection est soutenue par un programme de rajeunissement et de création des plantations mis en place par l'interprofession cacao-café depuis 5 campagnes. Grâce à ce projet, de nouvelles plantations au rendement amélioré entrent progressivement en production sur le territoire camerounais. Terminons avec la production de tabac au Zimbabwe qui devrait baisser à 240 millions de kilogrammes cette année, soit une baisse de 5% par rapport à 2018. Cette dégringolade est causée par la sécheresse qui a touché les rendements dans certaines régions. Le manque de pluie a également détruit d'autres cultures, notamment le maïs, un produit de base. Le tabac, cultivé par plus de 170 000 agriculteurs, est la deuxième source de devises du Zimbabwe après l'industrie minière et a rapporté 892 millions de dollars l'an dernier.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF a procédé hier au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe CAF.
Oui, club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec 3 sacres, le CS Sfaxien hérite d'un adversaire abordable avec les Zambiens de Nkana. L'autre club tunisien, l'Étoile du Sahel, devra se méfier des Soudanais d'El Hilal. De son côté, l'équipe surprise du Hassania Agadi aura fort à faire contre un Zamalek qui monte en puissance, tandis que les Kenyans de Gor Mahia rêveront d'un nouvel exploit face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, qui ont affiché beaucoup de maîtrise durant la phase de groupe. Les matchs allés auront lieu le 7 avril et les rencontres retour une semaine plus tard.
Les oppositions de la Ligue des Champions sont aussi connues.
Oui, tenant du titre, l'Espérance Tunis fera face aux Algériens du CS Constantine, mais le choc de ces quarts de finale opposera Mamelodi Sundowns à Al Ahly. L'affiche entre le Wydad Casablanca et les Guinéens d'Oroya vaudra aussi le détour. De son côté, le tout-puissant Mazembe hérite de la surprise tanzanienne Simba. Les matchs allés se joueront les 5 et 6 avril et les matchs retour une semaine après.
La Guinée se défait du Sénégal en match aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Le Sili National Espoir s'est imposé 2-1 à Conakry. Tout reste cependant possible lundi prochain à Thiès pour le match retour. À Kinshasa, la République démocratique du Congo a fait un pas important vers la qualification en s'imposant 2-0 face au Maroc. Les Léopards Espoir ont été portés par un doublé de l'attaquant du tout-puissant Mazembe Jackson Muleka. Les Lionceaux tenteront de renverser la vapeur dimanche à domicile lors du match retour. En déplacement au Soudan du Sud, la Tunisie a assuré le match nul 0-0. Même score pour le Congo qui a tenu en échec le Burundi à Bujumbura 0-0.
En Europe, 3 clubs espagnols refusent de laisser leurs joueurs à l'équipe catalane.
Oui, pour justifier ce refus, Valladolid, le Rayo Vallecano et Huesca, équipe qui lutte pour le maintien en Liga, ont avancé des raisons purement sportives, écartant tout lien avec le contexte politique espagnol. La sélection catalane affrontera le Venezuela match amical lundi prochain à Gérone. Au total, 6 joueurs n'ont pas pu être intégrés dans la liste de l'entraîneur Gérard Lopez, une liste où figure en revanche le défenseur du Barça Gérard Piqué et l'ancienne gloire exilée au Qatar, Xavi Hernandez, retraité de la sélection. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Milwaukee et Cleveland 107 à 102. Orlando et la Nouvelle-Orléans 119 à 96, Philadelphie et Boston 118 à 115, Utah et New York 137 à 116, Chicago et Washington 126 à 120, Memphis et Houston 126 à 125, Miami et San Antonio 110 à 105, Toronto et Oklahoma City 123 à 114, Portland et Dallas 126 à 118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise en République centrafricaine, les autorités et les 14 groupes armés signataires de l'accord de paix se sont mis d'accord sur un gouvernement inclusif. C'était hier à Addis Abeba. C'est ce qu'a annoncé l'Union africaine après une réunion de suivi dans la capitale éthiopienne, l'UA tentant de sauver l'accord de paix conclu le mois dernier à Khartoum. Cet accord a été mis à mal après la formation au début du mois d'un gouvernement rejeté par les groupes armés. Pour une réaction, Jacques Aristide s'est entretenu avec Joseph Bendunga, président du Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de la Centrafrique.
La rencontre de Khartoum est un non-événement. L'accord de Khartoum a poussé d'une petite souris. Et l'Union africaine tente par des prouesses pour ressouder, chercher à redonner vie à un mort-né. Donc Addis Abeba, ce sera exactement comme l'autre-là à Khartoum et nous n'attendons rien de cela. Parce que
si évidemment, ça c'est le point de vue d'un opposant, mais écoutez ce que dit le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamad. Il dit que les concessions sont difficiles, douloureuses, mais elles sont le prix de la paix. Pourquoi ne pas partager cet avis?
Vous savez bien que l'Union africaine n'a résolu aucune crise en Afrique. Pas mal des États africains en dehors de quatre États pratiquent la démocratie. Après l'enseigne que Mohamed Faki, ex-ministre des Affaires étrangères d'un dictateur, le président du Tchad, et ce monsieur qui devient un facilitateur, vous savez, c'est un mélange qui n'est pas bon. Je pense que les rebelles, si vous voyez bien leurs revendications, ils ont placé la barre haute, ils ont demandé le départ de André Bata. Ils veulent directement communiquer avec le président Ouattara. N'ayant pas obtenu cela, ils vont accepter un autre gouvernement, le deuxième gouvernement André Bata, en moins de deux mois. Et vous allez voir que dès que les rebelles seront en centrafrique, ben ils vont retourner leur veste. Ils ont un agenda caché. Et l'accord de Khartoum ne peut pas tenir parce que cet accord-là viole aussi la constitution de la République centrafricaine. Nous l'avons déféré devant la Cour constitutionnelle qui se prononcera dans les jours à venir. L'accord de Khartoum viole les articles 23 et 28 de la Constitution de la République centrafricaine.
Dans les grandes lignes, que recommande ce nouvel accord pour sortir de la crise? Que réclamez-vous par exemple?
Mais vous savez pertinemment que l'article 23 de la Constitution oblige toute personne résidant sur le territoire national de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République en prenant les armes contre l'État centrafricain et le peuple centrafricain. Les rebelles ont violé l'article 23.
Joseph Bendunga, président du parti d'opposition, le Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de la Centrafrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Sud Kivu, un collectif de médecins de l'État congolais réclamant, entre autres, je cite, leur alignement à la prime de risque, ont marché pacifiquement sur l'artère principale de Bukavu, la capitale, et remis aux autorités provinciales un mémorandum. Compte rendu de notre correspondant sur place, Ernest Mouhero.
C'est une marche pacifique avec comme point de chute le gouvernorat des provinces où les manifestants ont remis à un délégué du gouverneur leur mémorandum. Au centre des revendications de ces collectifs de médecins figure en première place la prime des risques. Docteur Moussa Biamungu, coordonnateur provincial du collectif des médecins sans prime des risques au Sud Kivu.
Le message fort des médecins, c'est que la prime des risques, c'est un droit, qu'on paye cette prime des risques à tous les médecins affectés régulièrement dans les services de l'État. Le problème où l'ampleur au Sud Kivu, c'est de voir qu'il y a plus de 200 médecins qui prestent dans les services de l'État et qui n'ont pas la prime de risque. Et pourtant, ils traversent les risques de travailler dans des zones où il y a des menaces de groupes armés. Et aujourd'hui, les médecins ont dit trop, c'est trop.
Ces médecins, en majorité des jeunes employés dans les structures étatiques, déplorent leurs conditions de vie et de travail. Pas de mobilité afin d'atteindre leurs malades, pas d'infrastructures appropriées pour le logement du médecin et sa famille, et surtout les inégalités et corruptions dans l'alignement des bénéficiaires de cette prime de risque selon les provinces et d'autres facteurs tribaux. Un des manifestants, le docteur Henri Zigabé, en parle.
Nous réclamons haut et fort que cette injustice puisse cesser. Il y a des gens qui sont recommandés, il y a des gens qui donnent la corruption pour mériter ces droits. Nous refusons cette injustice. Nous devons être rétablis à nos droits car nous risquons nos vies en sauvant des vies.
La frustration est perceptible dans ce mouvement des revendications. Docteur Marthe Dilaboué parlait des conditions de travail déplorables pour des hommes et femmes appelés à sauver des vies.
Le médecin, c'est un noble. Il doit travailler dans de bonnes conditions, mais les conditions sont précaires. Il ne sait pas comment se déplacer pour arriver au lieu du travail si vite, s'il y a une urgence. C'est pourquoi nous rappelons à l'État congolais de penser aux gens qui soignent.
Idesbald Diabouzé, conseiller politique du gouverneur du Sud Kivu qui reçoit les mémos, rassure les médecins que la correspondance sera transmise à qui des droits, mais précise que cette question des primes des risques relève de la compétence du gouvernement central. Ernest Mouero Bukavu pour VOA Afrique.
Morgane Guiriette, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, le point sur la situation politique en RDC. L'ex-président Kabila a cédé le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi, mais il conserve la majorité à l'Assemblée. Sa coalition rafle 80 sièges de sénateurs. Des résultats qui laissent bon nombre de Congolais perplexes, car la coalition du président Tshisekedi n'a obtenu que 3 sièges. Les autorités de Kinshasa ont annoncé la suspension de l'installation des sénateurs élus, le report de l'élection des gouverneurs et l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de corruption. Quelle sera la portée de ces mesures? Comment comprendre la victoire du FCC? Quel impact sur la stabilité du pays? On en discute dans ce Washington Forum.
Retour sur le rapport d'Amnesty International selon lequel des frappes aériennes américaines en Somalie auraient tué au moins 14 civils au cours des 2 dernières années. L'armée américaine nie ces allégations. Reportage de Mohamed Youssouf, repris ici par John Linden.
Intitulé « La guerre cachée des États-Unis en Somalie », le document de 73 pages porte sur les morts présumées des civils résultant des frappes aériennes américaines, des frappes destinées à affaiblir le groupe militant Al-Shabaab. Abdulhani Hassan est chercheur international d'Amnesty en Somalie.
Ce rapport contient des éléments de preuve crédibles indiquant qu'au moins 14 civils ont été tués et 8 blessés dans seulement 5 de plus de 100 frappes aériennes menées en Somalie. Ces frappes aériennes ont eu lieu dans la région de Lower Shabelle.
Les enquêteurs affirment avoir basé leurs conclusions sur des récits de témoins oculaires, des images satellites et des photos prises au sol après les raids. Le groupe de défense et des droits de l'homme basé à Londres note que les frappes aériennes américaines en Somalie ont triplé depuis 2017, lorsque le président Donald Trump a donné à l'armée plus de pouvoir pour attaquer des cibles d'Al-Shabaab dans le sud de la Somalie. Dans un communiqué publié mercredi, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, qui mène des frappes militaires américaines en Somalie en coordination avec le gouvernement somalien, a nié que ces attaques aériennes aient causé la mort des civils. Dans ce communiqué, on peut notamment lire qu'AFRICOM déploie des efforts extraordinaires pour réduire les risques de pertes civiles en faisant preuve de retenue conformément à sa politique. Des chercheurs d'Amnesty se sont rendus en Somalie pour s'entretenir avec des habitants de certaines de ces zones touchées par les frappes aériennes. Moumim Abdirahman, un vieillard somalien, laisse entendre que les civils se sont retrouvés pris dans les attaques et n'avait nulle part où aller.
On nous dit que la cible est Al-Shabaab, mais ce groupe vit parmi la population, tout comme les civils. Il n'y a pas de stratégie. Ces frappes aériennes sont menées par des personnes qui ne connaissent pas le terrain et ses habitants et qui lâchent simplement de bombes. Vous pouvez imaginer le problème que cela crée.
Chercheur à Amnesty International, Hassan explique que les attaques aériennes fréquentes ont affecté la vie des gens.
Les civils sont inquiets, ils vivent dans la peur. De nombreuses personnes interrogées nous ont dit avoir fui leur domicile et vivre dans des camps de personnes déplacées par peur des frappes aériennes. La population ne peut pas vaquer à ses occupations, elle ne peut pas travailler dans ses fermes parce que ces frappes aériennes tuent des civils.
Amnesty International, qui déclare que les attaques pourraient constituer des crimes de guerre, appelle le gouvernement américain à enquêter sur ces allégations des décès de civils.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Société pour terminer au Sénégal. Les gaspillages dans les cérémonies culturelles et traditionnelles telles que les mariages, baptêmes et autres sont très fréquents. Dans un pays où la pauvreté est présente, c'est des millions qui sont dépensés dans ce genre d'événements. Et la cérémonie la plus adulée est le mariage, nous dit de Dakar notre correspondant Sédina Abagué.
Se marier pour le meilleur et pour le pire, ce célèbre slogan est aujourd'hui galvaudé. Les festivités et les dépenses compulsives relatives aux préparatifs du mariage dénaturent l'aspect solennel de l'union sacrée entre un homme et une femme. Père Raphaël Diop, curé à la paroisse Saint-Joseph de Médina.
L'Église a toujours donné des conseils et invité à la sobriété et à la simplicité quand nous célébrons nos événements, mariage ou autre événement. Le fait de mettre beaucoup d'argent dans ces fêtes, finalement on met plus l'accent sur la fête que le sacrement que nous allons recevoir.
Amoindrir les dépenses pour le christianisme, faire plaisir à sa dulcinée dans la limite du possible pour l'islam, Imam Biram Pouy.
Dans le Coran, même Allah dit Khintaran, Khintar, ça veut rester plus de 1000 pièces d'or. Actuellement, on pourrait même parler de milliards de pièces d'or pour montrer qu'il faut toujours de sa femme. Autant les prophètes, il y avait une personne qui était extrêmement pauvre, il n'avait rien. Et le prophète avait déclaré, il faut donner quelque chose à la femme. La personne était tellement pauvre, il n'avait que quelques versets coraniques. Donc pour montrer, il n'y a pas de limite. À partir d'un verset coranique jusqu'à plus de 1000 pièces d'or, donc ça varie.
Le bonheur n'a pas de prix, c'est la devise de Oupa Kadior Mendi. Lors de son mariage, il a dépensé sans compter. Il a mis les petits plats dans les grands.
Je suis marié disons en trois étapes. Donc j'ai fait la cérémonie dite traditionnelle. J'ai également fait la cérémonie à la mairie et j'ai fait la cérémonie religieuse à l'église. Donc tout ça cumulé, mes revenus entre 4 et 5 millions, ça en valait la peine, ma femme en vaut la peine. Et après, le prix s'oublie et les bons souvenirs restent également.
Abdoulaye Thiam n'est pas d'accord avec Oupa Mendi.
Les dépenses astronomiques vraiment constituent un frein pour moi. Dans la prise de décision par rapport au mariage, franchement parlant, pour de vrai, ça constitue un frein. Le plan financier est très important en matière de relations. Notre société a tendance à lui donner de plus en plus d'envergure. Quand on ne se sent pas du tout frais sur le plan français, ça constitue un frein dans la prise de décision pour se marier.
Le sociologue Ndiaye Ndoye coupe la poire en deux et accuse les belles familles. Pour elle, les beaux-parents sont à l'origine des dépenses compulsives lors des mariages.
On peut dire que les populations, plus ces populations sont pauvres, plus ils tendent vers des dépenses qui ne s'expliquent pas. C'est une concurrence, c'est une rivalité. Parce que la famille d'un tel a fait ça, je vais
Il est de coutume au Sénégal, lors des mariages, que les époux, en accord avec la belle famille, organisent une grande cérémonie, des dépenses parfois exagérées qui sont qualifiées de gaspillage sont effectuées. Paradoxe, ces mêmes familles vont se plaindre au lendemain du mariage célébré en grande pompe de la cherté de la vie. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, Ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Ariel Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.